Internationales ont fait le déplacement pour ces commémorations. Mais loin de la gravité des discours, le souvenir de Hiroshima semble bien lointain sur le terrain. Partout, la menace nucléaire ressurgit. En Ukraine, la Russie agite régulièrement la possibilité de recourir à l'arme nucléaire contre Kiev et ses alliés. Menace bien reçue par Donald Trump qui a annoncé vendredi dernier avoir ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires sans préciser où exactement. En juin déjà, les États-Unis avaient décidé d'appuyer Israël dans ses attaques contre les installations nucléaires iraniennes. À quelques encablures de là, le Pakistan et l'Inde, 2 puissances nucléaires, étaient au bord de la guerre en avril dernier. Sans oublier la Corée du Nord qui exhibe régulièrement ses missiles. C'est dans ce contexte que les 9 pays dotés de l'arme nucléaire ont tous fait le choix de moderniser leurs installations ces derniers mois. C'est le cas de la France. De quoi inquiéter de plus en plus les opposants à la bombe atomique.
En période 41, le nombre d'ogives nucléaires dans le monde aujourd'hui, c'est selon l'évaluation du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 360 000 bombes d'Hiroshima. Des ogives qu'on trouve un peu partout dans les 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire. On ne sera pas surpris d'apprendre que c'est essentiellement aux États-Unis et en Russie. La plupart sont stockées en vue d'une potentielle utilisation. Dans son rapport publié en juin dernier, le CIPRI déclare l'ère de la réduction du nombre d'armes nucléaires dans le monde, en cours depuis la fin de la guerre froide, touche à sa fin. On est loin de l'après-guerre froide, hein, de la question de ralentir. Est-ce qu'on est entré, Loïse Faillet, dans une nouvelle phase?
Oui, beaucoup de chercheurs dont je fais partie considèrent qu'on est même entré dans une troisième âge, dans un troisième âge nucléaire aujourd'hui, enfin qui remonte peut-être au tournant des années 2010 ou au tournant des années 2020, avec effectivement la fin de ce mouvement de désarmement que l'on observait depuis la fin de la guerre froide, et surtout une augmentation du nombre des têtes nucléaires dans le monde, principalement en Asie, parce que le pays qui augmente le plus aujourd'hui son stock d'armes nucléaires, c'est la Chine, qui a plus que doublé son arsenal entre 2020 et aujourd'hui, également d'une façon un petit peu plus réduite, la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan, mais dans l'ensemble, tous les États dotés et possesseurs de l'arme nucléaire, soit augmentent leurs arsenaux, soit se donnent la possibilité de le faire, parce qu'ils voient en fait malheureusement l'utilité de cette arme dans les relations internationales, avec aussi effectivement l'effondrement de la maîtrise des armements, un respect bien moindre du droit international et aussi l'émergence de nouvelles technologies.
Par la Russie, ambiguïté stratégique, menace nucléaire, uranium enrichi, ce sont des mots qu'on maîtrise un peu tous. Et évidemment, ça c'est lié à un certain nombre d'événements. Donc vous en avez parlé, l'invasion de l'Ukraine, pardonnez-moi, par la Russie, mais aussi très récemment, lorsque, face aux gesticulations de Medvedev, l'ancien président russe, Donald Trump décide de déployer 2 sous-marins, le bombardement par les États-Unis et Israël, pardonnez-moi, des sites d'enrichissement nucléaire en Iran, la crise d'une ampleur assez inédite entre 2 puissances nucléaires dont parlait Héloïse, que sont l'Inde et le Pakistan. Tout ça, ça installe effectivement cette rhétorique nucléaire dans le quotidien des Français. Donc oui, de ce point de vue-là, on est entré dans un troisième âge qui nous concerne aujourd'hui, en 2025.
Quatrième âge, enfin, vous voyez, il y a différents termes qui peuvent être mis en place ces derniers temps par différentes personnes. C'est vrai qu'on en parle plus, mais la menace, elle est réelle depuis le 9 août 1945. Et c'est ça quand même qui est important d'avoir en tête. Elle a été diminuée notamment par les médias de façon massive dans la période 2010-2022-2023 à peu près. Mais depuis le 9 août 1945, l'être humain s'est donné les moyens de mettre un terme à sa civilisation humaine. Et c'est important de l'avoir en tête. Et il est vrai qu'actuellement, on a ce retour en force dans les dialogues, dans les discours, dans la façon de faire. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et on a aussi une coordination finalement de l'ensemble des calendriers des différents États qui possèdent ces armes nucléaires qui arrivent en même temps, c'est-à-dire que tous ont décidé il y a 15 ou 20 ans de moderniser et de renouveler leurs arsenaux nucléaires. Et ce renouvellement se fait aujourd'hui. On a les Britanniques qui augmentent aussi leur arsenal nucléaire. Le président français, il y a quelques semaines, a annoncé aussi la création de nouveaux escadrons.
Bien sûr.
Vous parlez justement du Vauquelin, son premier coup d'essai en termes de maniement, on va dire, un petit peu désinvolte de la rhétorique nucléaire. On se souvient que pendant son premier mandat, après l'échec de ses discussions avec Kim Jong-un, donc le dirigeant de la Corée du Nord, il avait rappelé qu'il avait lui aussi un bouton nucléaire sur son bureau.
Le plus gros bouton,
que là aussi, une dimension un petit peu masculiniste de l'arme nucléaire. Mais voilà, Donald Trump n'en est pas du coup à son premier coup d'essai, ce qui interroge évidemment la question de la responsabilité, parce que rappelons que dans tous les États dotés et possesseurs, c'est généralement uniquement le chef de l'État qui a la responsabilité d'employer le feu nucléaire. Alors évidemment, avec un aéropage de conseillers, bien heureusement, afin d'éviter une action totalement inconsidérée. Mais il est certain que dans cette nouvelle ère nucléaire, il y a un acteur en fait immatériel qui est extrêmement important, ce sont les réseaux sociaux. Et on le voit très bien avec Donald Trump, qui est addict en fait à Truth Social, donc son propre réseau social, qui ne peut pas s'empêcher effectivement d'effectuer des déclarations sur ce réseau social qui, dans le passé, auraient plutôt été des déclarations en tête-à-tête avec des dirigeants. Et donc là aussi, en fait, voilà, cette désinvolture, elle est potentiellement dangereuse, parce que les armes nucléaires, ça doit être vraiment quelque chose quasiment en fait de réservé à un petit cercle. Leur usage, que ce soit par la rhétorique ou par les exercices, doit être compris par l'adversaire, par les alliés, dans des canaux extrêmement sécurisés, codifiés. Et ce n'est pas du tout en fait ce que fait Donald Trump ni Dmitri Medvedev.
Guillaume, en compte d'un changement majeur dans le paysage géopolitique à minima européen, avec une menace qui est identifiée. Suivez mon regard, c'est évidemment, ça vient de Moscou. La traduction à l'échelle européenne, c'est qu'effectivement, Keir Starmer et Emmanuel Macron se rencontrent à Northwood et actent l'idée que ces deux pays qui sont dotés de l'arme nucléaire sur le continent européen vont entrer dans une phase de coopération stratégique. Donc, en deux mots, ça veut dire cette possibilité de déployer un parapluie nucléaire européen pour protéger les intérêts à la fois de ces deux pays, mais peut-être plus largement. Et ça, c'est un pas de géant qui est fait en matière de coopération stratégique. Ça indique qu'en réalité, la menace que profère Vladimir Poutine et qu'il agite en réalité depuis maintenant 3 ans et demi, elle produit des effets. Les gesticulations, on peut ironiser, mais ça sert d'abord et surtout à empêcher en réalité les pays occidentaux de continuer à soutenir l'Ukraine plus avant. Et puis deux, ça permet à des pays de manière décomplexée comme la Russie d'attaquer leurs voisins qui ne sont pas possesseurs de l'arme nucléaire ou d'aller plus loin et évidemment d'aller éventuellement chatouiller l'OTAN.
Qui aujourd'hui mettent en avant le fait et ont décidé, on parlait de vocabulaire, de mettre en avant qu'on doit bien parler de théorie de la dissuasion nucléaire. Hein. Rien ne permet d'affirmer que la dissuasion nucléaire fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Et c'est tout le problème d'ailleurs, hein, puisqu'on parle d'une arme de destruction massive, et on s'est aperçu dans l'histoire qu'il y a eu de nombreuses failles, de nombreux échecs, il y a de nombreux acteurs politiques qui ont mis en avant, je pense à Alain Juppé par exemple dans les années 2009, à Michel Rocard et d'autres tribunes qui ont dit que la dissuasion nucléaire comportait un certain nombre de failles et donc de dangers. Et c'est bien parce qu'on est sur des chefs d'État autoritaires ou d'État démocratiques, hein, les États-Unis, avec aujourd'hui un langage libéré qui banalise effectivement l'arme nucléaire, qu'on accélère en fait le danger d'utilisation de ces armes.
Et la dissuasion nucléaire a ses failles, mais qu'on peut se rappeler aussi que la dissuasion conventionnelle a échoué. La Première et la Seconde Guerre mondiale sont des exemples en fait d'échecs de la dissuasion conventionnelle, où c'est justement parce qu'il n'y avait pas de menace suprême de destruction de son adversaire qu'on en est potentiellement arrivé à les massacres qu'on a connus pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Après, c'est certain que si la dissuasion nucléaire a, à mon sens, pu en partie contribuer au fait qu'on n'a pas eu de conflit de haute intensité depuis 1945, elle s'accompagne en fait, enfin, s'inscrit dans un système beaucoup plus large qui est celui du développement international, du droit international, qui lui aussi commence à s'effriter en fait.
D'accord.
Mais c'est bien malheureusement parce que on a réussi à se menacer mutuellement de destruction que pour le moment en fait cet équilibre tient.
Alors vous l'avez dit, du monde extrêmement terrible, hein. Ça voudrait dire que cet État fait de la prolifération nucléaire avec l'aide des États-Unis et ça viendrait un peu plus casser, fragiliser par exemple des traités internationaux dont on évoquera probablement. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que ce pays a encore une constitution forte, hein, l'article 9 sur le pacifisme, et qui permet d'interdire ça. La mémoire des Ibakusha est encore extrêmement forte. On peut le voir d'ailleurs à l'ONU, à chaque grande réunion, il y a des centaines de jeunes lycéens, étudiants qui viennent écouter, apprendre, promouvoir cette voie-là. Et c'est important, les journées du 6 et du 9 août sont importantes pour rendre hommage aux 220 000 personnes qui sont décédées, mais aussi pour prendre action et agir véritablement pour éviter que cela ne se répète. Puisque le drame quand même dans cette histoire, c'est qu'on sait que si jamais on arrive à cette dissuasion nucléaire qui échoue, à l'utilisation d'armes nucléaires, on va vers un changement de société humaine. Donc on sait le résultat et on sait aussi comment agir.
En réalité, que de remettre un prix Nobel de la paix à ces survivants qui, certes, sont les porteurs d'un traumatisme extrêmement puissant et d'une mémoire qu'il faut transmettre, mais on a le sentiment en 2025, 80 ans plus tard, qu'on a un peu oublié tout ça. On est en train de décrire un monde dans lequel la fiabilité de l'allié américain elle est remise en question, qu'on ne sait pas tout à fait si le parapluie nucléaire américain protégera le Japon. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, au Japon, on commence à penser quasi ouvertement à l'idée de se rééquiper. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le Japon est un pays très avancé industriellement, avec des connaissances scientifiques qui sont extrêmement abouties. Il ne faudrait que quelques années, s'ils le souhaitaient, s'ils appuyaient sur le bouton pour se doter d'une arme nucléaire.
Même là, si on fait
tabou autour de l'emploi de l'arme nucléaire, cependant, effectivement, on commence potentiellement à en oublier les conséquences. Et c'est pour ça qu'il était, à mon sens, très positif et pas que symbolique de saluer en fait donc l'association effectivement l'année dernière donc Nihon Ibako sur qui permet en fait de saluer la mémoire des Ibakusha et non pas en fait de critiquer par exemple la dissuasion en tant que telle, mais plutôt de rappeler les conséquences de l'emploi afin en fait que ce prix Nobel soit peut-être plus facilement accepté, notamment par des États dotés de l'arme nucléaire qui évidemment eux entendent difficilement parler d'interdiction de l'arme nucléaire, mais qui sont quand même relativement d'accord pour s'accorder sur le fait que l'arme nucléaire ne doit pas être utilisée. Ouais. Et ça, ils l'ont même rappelé entre eux, en janvier 2022, ils ont rappelé cette fameuse déclaration Reagan-Gorbatchev sur le fait que l'arme nucléaire ne doit ni être utilisée, ni être employée. Donc en fait, il est vraiment urgent de garder en tête justement les conséquences de l'arme nucléaire. Le tabou autour de l'emploi est toujours présent, cependant, le tabou autour de la rhétorique, lui, commence à s'effriter.
Internet, un musée virtuel avec 400 portraits de personnes qui sont décédées, c'est important de transmettre cette information. Et c'est là le paradoxe, c'est que si les chefs d'État sont bien conscients du danger des armes nucléaires, dans le même temps, on vient de le montrer, eh bien ils s'amusent à dire qu'ils pourraient les utiliser.
Le Tian et le TNP, alors je parlerai plutôt du TNP, je laisserai à Jean-Marie.
Traité de non-prolifération.
Voilà, tout à fait, le traité de non-prolifération nucléaire, qui est la pierre angulaire en fait du régime de non-prolifération dans le monde et qui comprend en gros trois grands principes. Déjà, les États dotés de l'arme nucléaire, donc ceux qui avaient l'arme nucléaire avant l'entrée en vigueur du traité, ne doivent pas aider d'autres États à s'en doter. En échange, ils accordent en fait un accès facilité à l'énergie nucléaire donc civile auprès de ces États. Et ils s'engagent également vers un désarmement de bonne foi, à réduire en fait leur stock d'armes nucléaires. Donc c'est ça aujourd'hui en fait qui pose problème surtout au sein du TNP, c'est qu'en fait ce pilier du désarmement, eh bien il n'est plus en fait respecté par les États, alors qu'effectivement en parallèle le risque de prolifération horizontale, donc le fait que d'autres États qui s'intéressent aux armes nucléaires veuillent s'en doter, eh bien il remonte aussi.
Alors ça c'est dans réduction des armes nucléaires, joie, optimisme et avenir sans radiation était alors de mise. Depuis, l'ambiance a un peu changé.
120 pages de traité, un bon kilo et demi d'annexes, un droitier et un gaucher pour une signature obtenue à l'arraché mais qui marque le vrai redémarrage des relations entre les deux anciennes puissances de la guerre froide.
Quand les États-Unis et la Russie sont capables de s'entendre sur les dossiers les plus importants, c'est bon pour nos deux pays, mais aussi pour le monde entier.
Le président russe est encore plus enthousiaste.
Le plus important, c'est qu'il n'y a pas un gagnant et un perdant dans ce traité. C'est gagnant-gagnant.
Win-win situation.
Parce qu'on voit effectivement l'actuel vice-président, vice-président du Conseil de sécurité Medvedev, qui lui manie et gesticule autour de la rhétorique nucléaire, à tel point de faire sortir de ses gonds Donald Trump qu'on voit des sous-marins. Et là, à l'époque, c'était un libéral totalement ouvert, souriant avec Barack Obama. C'était en effet une époque révolue. En effet, ce traité New Start, mais mes camarades en parleront mieux que moi, il arrive à échéance en 2026. Et il pourrait, dans le contexte actuel, avec ces deux hommes forts, extrêmement forts, que sont Vladimir Poutine et Donald Trump, peut-être relancer en fait une course entre deux pays qui sont déjà à eux deux, à 90%, les possesseurs de l'ensemble des armes nucléaires du monde entier.
Passer pour le moment par un renouvellement, une sorte de nouvelle forme de New Start, parce que ce qui les inquiète aujourd'hui, ce n'est plus la Russie, c'est la Chine. Et donc ils considèrent que vu l'augmentation de l'arsenal nucléaire chinois, les États-Unis auraient potentiellement besoin d'augmenter eux aussi leur arsenal nucléaire pour faire face en fait à la fois à la dissuasion nucléaire russe et à la dissuasion nucléaire chinoise. Donc oui, en fait, vu le contexte stratégique actuel, malheureusement, les États n'ont plus vraiment de motivation à limiter leur nombre de têtes stratégiques, à part la motivation budgétaire. cancer. Et donc, en fait, il faut se rappeler aussi que dans les années 2010, c'est ça qui avait aussi motivé, en fait, la Russie et les États-Unis à s'entendre sur 1500 têtes nucléaires stratégiques déployées. C'est que tant que votre voisin n'en a pas plus que vous, bah, vous n'avez pas besoin d'en développer plus.
Et puis, les traités n'ont pas...
Ça a empêché une vingtaine d'États de se doter de l'arme nucléaire, en tout cas, et c'est ça qui est important de retenir. C'est-à-dire que des États comme le Brésil, comme l'Argentine, comme l'Afrique du Sud ont décidé, le seul État au monde qui a décidé de renoncer à son arsenal nucléaire, sont rejoints à ce traité. Donc, les traités, il est évident qu'en temps de paix, ça paraît quelque chose de très sympathique, mais les traités ne sont pas faits pour être en temps de paix. Les traités sont faits pour être en temps de guerre, pour être réalisés quand il y a des tensions. C'est une évidence et c'est triste de voir aujourd'hui, de manière générale d'ailleurs, que le droit international, on a tendance à dire « Oh, ça ne sert à rien quand il y a des tensions ». Au contraire, c'est à ce moment-là où il est le plus important et il a été fait pour ce moment-là. Le TNP est un axe clé. On l'a vu, les dirigeants ont oublié la notion de désarmement nucléaire. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires vient compléter ce traité. C'est une pression supplémentaire. Il introduit pour la première fois une interdiction globale sur les armes nucléaires, ce qui n'existait pas jusqu'en 2021. C'était quand même assez fou, hein. Et surtout, il vient poser véritablement une notion importante. Les armes nucléaires sont interdites. Elles sont illégales au regard du droit international. L'interdiction normative est importante pour engager un changement des consciences.
Géopolitologue français Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et les sujets d'actualité internationale ne manquent pas. La guerre en Ukraine, celle qui fait rage dans la bande de Gaza, les nouveaux droits de douane imposés à tout va par les États-Unis et dont beaucoup entrent en vigueur aujourd'hui. On va parler de tout cela en prenant comme fil conducteur de cet entretien Donald Trump, qui est mêlé à chacun de ces dossiers. On va aussi vous faire découvrir qui Pascal Boniface et comment il organise sa communication et celle de l'IRIS. L'Express dit de lui qu'il est le géopolitologue préféré des ados, un génie du réseau social TikTok. Et après avoir fait un petit tour sur ses réseaux sociaux, on comprend pourquoi. L'Américain Steve Witkoff et le président russe Vladimir Poutine ont eu hier un échange utile, d'après le Kremlin. Steve Witkoff est en Russie alors que demain marque la date butoir fixée par Donald Trump pour que Vladimir Poutine accepte un cessez-le-feu en Ukraine ou alors son pays s'exposerait à de nouvelles sanctions. Est-ce que vous y croyez, Pascal Boniface? Est-ce qu'il va se passer quelque chose d'ici à demain?
Ah oui, c'est tout l'un, parce que la Crimée de Donald Trump est en jeu. On lui reproche d'avoir promis de faire la paix en 24 heures sur l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas. Et donc, il a mis la pression sur Poutine, et Poutine, pour l'instant, n'a pas accepté les propositions pourtant très généreuses de Donald Trump, puisqu'il lui propose que l'Ukraine ne sera jamais dans l'OTAN, qu'il garde les territoires qu'il a conquis, et surtout de lever les sanctions. Et en fait, Poutine est confronté à un choix. Soit il accepte cela, il empoche sa mise, et il n'aura pas toute l'Ukraine, soit il pense pour l'instant qu'il peut faire céder l'Ukraine, que l'Ukraine va craquer et qu'il peut supporter des sanctions américaines ou que les Américains vont se lasser du dossier ukrainien. Donc en fait, là, c'est Poutine qui est devant le choix. Soit il empêche son bénéfice, soit il veut encore avoir plus. Il mise sur un effondrement de l'Ukraine, mais au risque, effectivement, de gâcher sa relation avec Donald Trump.
Et est-ce qu'il va se passer quelque chose d'ici à demain, précisément, et cette date butoir? Est-ce que Vladimir Poutine pourrait faire un pas vers Donald Trump?
Alors, on parle d'un éventuel sommet entre les deux hommes dans la semaine prochaine, ce qui changerait bien sûr la mise, parce que ce que veulent l'un et l'autre, c'est montrer qu'ils sont les maîtres. Poutine a intérêt à apparaître comme l'égal de Donald Trump. Ça renforce son statut, et Donald Trump veut quand même accréditer l'idée que cette guerre a été déclarée parce que Biden a été président, que s'il avait été président, elle n'aurait jamais été déclarée, et que lui apporte la paix. On sait qu'il a le rêve d'obtenir le prix Nobel de la paix, et effectivement, la fin de la guerre en Ukraine serait un trophée qu'il pourrait mettre en avant, tout ceci au prix d'énormes concessions à l'égard de Poutine. Et donc, en fait, là, on ne sait pas un peu ce qui peut se passer. Avec Trump et Poutine, tout peut se passer. Donc, on peut très bien avoir la continuation de la guerre et la rupture entre Trump et Poutine, ou au contraire, un sommet bilatéral entre les deux hommes qui pourrait éclipser, finalement, parce que dans ce cas-là, et l'Ukraine et les Européens seront des sujets passifs et non pas les acteurs de ce dossier.
Vladimir Zelensky, le président ukrainien, a évidemment déclaré dans la foulée de ses premières déclarations qu'il était prêt, lui, à rencontrer Vladimir Poutine et aussi le président américain Donald Trump. Est-ce qu'on est, vous l'évoquiez, Pascal Boniface, à un véritable tournant des relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, avec ces pressions que l'Américain met sur le Russe?
Oui, tout à fait, parce que Trump, disons, triompherait si Poutine acceptait ses propositions. Une fois encore, c'est plus des offres que des propositions, d'ailleurs. Et Poutine pourrait se dire, finalement, il met fin à la guerre, ce que la population russe souhaite, parce que les Russes sont là de la guerre, mais ne veulent pas une défaite de leur pays. Et donc, chacun pourrait s'estimer vainqueur. Les vaincus seraient l'Ukraine, qui perdrait une grande partie de son territoire, et qui, mais ceci étant, militairement, l'Ukraine ne pourra jamais reconquérir les territoires qu'elle a perdus du fait d'un ratio démographique défavorable. Il n'y a plus que 30 millions d'Ukrainiens, il y a 145 millions de Russes. Donc, matériellement, la reconquête des territoires n'est plus possible. Pendant très longtemps, Zelensky disait qu'il n'arrêterait pas la guerre tant qu'il n'a conquis les territoires perdus. Il a compris désormais que c'était matériellement impossible et donc il peut accepter parce que sans aide américaine, l'Ukraine aura beaucoup de difficultés à résister à la Russie. L'Europe peut aider, mais elle ne peut pas aider à ce point, elle ne peut pas remplacer totalement l'aide américaine.
L'enjeu, c'est aussi pour Donald Trump de voir quelque part si ces menaces fonctionnent réellement. Si on prend un autre pays, le Brésil, il avait exigé la fin du procès en cours contre Jair Bolsonaro, ex-président d'extrême droite, poursuivi pour tentative de coup d'État. La justice brésilienne n'a pas cédé face aux menaces. Résultat, 50% de taxes supplémentaires sur les produits brésiliens. Donc les menaces de Trump, elles fonctionnent ou pas, Pascal Boniface?
Eh bien, ça dépend si on a envie d'y résister ou non. Le Brésil veut résister, l'Afrique du Sud résiste, la Chine résiste, l'Union européenne n'a pas fait ce choix, elle a plutôt cédé. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a des réponses différentes et que le bluff de Trump peut très bien impressionner parce que ces menaces sont réelles. Et en même temps, si on décide que il n'y a pas raison de céder, Trump, en fait, agit un peu comme s'il savait qu'il y avait une parenthèse qui va se refermer, que les États-Unis sont encore assez puissants pour faire peur au reste du monde, mais que bientôt, ce moment va disparaître. C'est pour ça, son slogan, c'est « Make America Great Again ». Donc, il reconnaît qu'il y a une perte de puissance des États-Unis. Et il cherche un peu par la brutalité économique, pas par la brutalité militaire, comme George Bush, mais par la brutalité économique, de faire céder aussi bien ses partenaires que ses rivaux. Avec Trump, il n'y a pas d'alliés, de rivaux, tout le monde est sur le même plan. Il n'y a plus d'alliance, en fait, entre nous, Européens, et les États-Unis, qui ne nous traitent pas comme un partenaire, et encore moins comme un allié. Mais certains, donc, résistent à ce chantage. D'autres sont plus tenter d'y céder. Et du côté européen, ce qui les fait céder, c'est la peur que Trump les délaisse d'un point de vue stratégique et mette en cause l'article 5 de l'OTAN.
À propos des droits de douane, Pascal Boniface, qui entrent pour la plupart en vigueur aujourd'hui,